Alors s'il y a bien un invité qu'on aurait aimé avoir s'il n'était pas mort, et qu'on aurait invité avec bonheur car c'était une plume redoutable, un pamphlétaire étonnant et alors vraiment ce qu'on appelle un esprit libre, c'est Jean-François Revel. Et Jean-François Revel, à défaut de Jean-François Revel, nous avons Georges Claisse qui va maintenant nous interpréter, c'est le cas de le dire, un extrait du Regain démocratique, un chapitre de ce livre, le chapitre d'où ce texte est extrait s'intitule « Les hommes démocrates malgré eux ». Georges.
Les leçons qui se dégagent de l'histoire du XXe siècle ont donc bien valeur de démonstration maintenant acquise. Le seul système économique capable d'assurer le développement tout en rapprochant les conditions est le capitalisme. Le seul système politique capable de prévenir ou de corriger assez tôt les pires abus ou les plus graves erreurs est la démocratie. Autrement dit, ce que l'humanité doit adopter sous peine d'extinction, c'est le capitalisme démocratique. J'ajouterai, le capitalisme démocratique est libéral. Il existe en effet un capitalisme non libéral, protectionniste et greffé sur l'État qui, sans nuire autant au développement et à la liberté individuelle que le socialisme proprement dit, les paralyse fortement et expose à la corruption les dirigeants politiques. Le capitalisme libéral démocratique n'est pas le meilleur système, c'est le seul. Les perroquets qui continuent à débiter leurs monologues enregistrés sous l'ère marxiste contre les imperfections du capitalisme libéral et démocratique ont raison. Ces imperfections sont bien réelles. Mais le seul vice rédhibitoire pour un système, ce n'est pas d'avoir des défauts, c'est de n'avoir aucune qualité. C'est le cas de tous les systèmes contemporains autres que le capitalisme libéral et démocratique. L'unique tentation à laquelle les innombrables critiques qu'ils méritent ne doivent pas conduire est donc celle de revenir au collectivisme, voire à quelques formes plus modérées de dirigisme étatique. Certes, il convient de faire sans cesse expier ses fautes au capitalisme démocratique, mais le socialisme semble malgré tout un châtiment excessif, même pour nos péchés les plus lourds, d'autant plus que nous en avons déjà fait l'expérience.
Valérie Charolle, Alain Laurent, le capitalisme libéral démocratique n'est pas le meilleur système, c'est le seul. Ce que l'humanité doit adopter sous peine d'extinction, c'est le capitalisme démocratique et libéral. Alain Laurent, vous partagez ce sentiment?
Absolument. De quoi est fait le capitalisme réel? D'entrepreneurs et d'investisseurs. Comment voulez-vous produire des richesses et éventuellement ensuite les redistribuer ou les diffuser sans qu'il y ait efficience?
Mais l'efficience... Pardonnez-moi, le capitalisme est aussi fait de ceux qu'ils emploient, en l'occurrence, est aussi fait de ceux qui suivent la tâche.
Il faut bien qu'il y ait des entreprises pour qu'il y ait des entreprises. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour qu'il y ait des entrepreneurs. Il faut qu'il y ait des investisseurs qui leur fournissent le capital. C'est comme ça que marche le capitalisme. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé il y a un peu moins d'un an, qu'on peut qualifier d'hypercapitalisme, où il n'y avait plus de production de richesses, où un fondamental du libéralisme, comme la souveraineté du consommateur, a été complètement oublié. Tout cela, évidemment, doit bénéficier aux consommateurs. Un petit peu la différence de Revel, moi je dirais que c'est peut-être pas le seul, mais en tout cas, c'est de très loin le moins mauvais. Et certainement pas le pire. Il faut se rappeler de la phrase de Churchill, la démocratie, n'est pas la meilleure des solutions, mais en tout cas, c'est la moins mauvaise. On pourrait en dire autant du capitalisme, dont je rappelle qu'il ne signifie rien d'autre dans la réalité que l'économie de libre marché.
J'entends bien, Alain Laurent, mais dans votre raisonnement, vous avez mentionné l'entrepreneur, effectivement, oui. L'investisseur, effectivement, le consommateur, en effet, et le travailleur. Mm-hmm. Et quid du travailleur?
Ben, le travailleur, c'est souvent le même individu que le consommateur.
Souvent, mais pas toujours.
Ce qui peut le placer en état de schizophrénie de temps en temps. Bien entendu. Mais qui va donner du travail ou un emploi aux travailleurs? C'est cette combinaison. D'ailleurs, ce ne sont pas toujours les mêmes individus, l'investisseur et l'entrepreneur. Donc, c'est là que commencent les choses. Et ensuite, il y a un contrat de partenariat qui s'établit entre celui qui entreprend, qui crée une entreprise, une affaire, etc., et puis ceux qui vont venir l'aider à la faire marcher.
Valérie Charolle.
On peut prendre aussi les choses sous un angle un peu différent, qui est celui de l'idéologie. L'idéologie, l'économie, c'est pas seulement une pratique, c'est pas seulement une science, c'est aussi une idéologie. L'idéologie ambiante est que libéralisme et capitalisme, c'est la même chose, et que et donc il n'y a pas, il y a satisfaire du système dans lequel on est aujourd'hui, qui est le seul possible.
Vous parlez d'un tour de passe-passe, hein, en fait, d'un tour de passe-passe presque lexical finalement.
D'autres manières d'organiser l'économie de marché, parce que moi je suis alors là totalement pour l'économie de marché et pas pour une économie dirigée, qu'il n'y a pas d'autre manière d'organiser l'économie de marché que celle que nous connaissons. Et faisant cela, je pense que on passe totalement à côté de l'héritage du libéralisme des origines par rapport à ce qui vient d'être dit. Franchement, tout le début de La richesse des nations d'Adam Smith, c'est d'expliquer que c'est le travail qui est ce qui permet d'avoir de la richesse, de consommer, et donc qui justifie la production. Et donc, on part de l'angle exactement opposé, qui est celui qui vient d'être proposé. On part pas du capital, mais on part du travail. Et je pense qu'il y a moyen d'agencer une économie de marché reposant. Alors, soit on est un libéral classique, donc sur un pied d'égalité entre travail et capital, soit sur le capital, ce qu'on fait aujourd'hui, soit sur le travail, dans une économie sociale de marché.
En somme, ce que vous appelez une économie sociale de marché, c'est une économie qui garantirait à chacun les moyens de son développement individuel. Alain Laurent, vous souscrivez à cela ?
Pas du tout. Dans la collection que je dirige au Bénin, je vais publier prochainement « Au-delà de l'offre et de la demande » de Wilhelm Röpke, le père le père intellectuel de l'économie sociale de marché. Et quand on lit le livre, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui fustige totalement l'État-providence, qui adhère totalement au libre marché, à la libre concurrence. Donc je crois qu'il y a un contresens, et là aussi un détournement de signification que je vais prochainement rectifier quant à l'économie sociale de marché. Sous la plume de Röpke, économie sociale de marché a une toute autre signification. Ça veut dire que l'économie de libre marché ne peut pas marcher, si l'on ose dire, sans qu'il y ait un tissu social harmonieux et sans qu'on respecte un certain nombre de valeurs, et il renvoie beaucoup d'ailleurs à des petites communautés, à la famille, choses comme ça, sans le moindre moralisme. C'est ça l'économie sociale de marché. Alors, je vais répondre à ce que vient dire notre interlocutrice,
Valérie Charron.
Sur les origines du libre, mais on ne peut pas tout renvoyer à Adam Smith. Alors, premièrement, s'il s'agit d'Adam Smith, le maître mot de La richesse des nations, c'est la liberté du commerce, sans intervention du gouvernement. Donc, il faut tout de même restituer les choses. Comme je prépare une anthologie gigantesque du libéralisme, j'ai pioché à fond récemment ces textes, et c'est ça, c'est la liberté du commerce. Et lui aussi, d'ailleurs, il dit presque dans les mêmes termes que Tocqueville, il ne s'agit pas que l'État soit le tuteur de chacun, prenne sa main, le guide, etc. Mais le libéralisme a tout de même commencé avant, il n'est pas d'origine anglo-saxonne, il est d'origine française, avec des gens comme Bois Guilbert, comme Cantillon, comme Gournay, comme Quesnay, et comme surtout le grand Turgot. Et après Smith, qu'est-ce qu'il y a comme libéral en Leclerc ? Mais il n'y en a pratiquement pas, alors qu'en France, il y a un foisonnement, comme Jean-Baptiste Say, comme Bastiat, comme Benjamin Constant. On a déjà parlé de Tocqueville. Donc c'est une très grande tradition intellectuelle française, et pour clore là-dessus, chez tous ces gens-là, même ceux que l'on considère comme les plus modérés, Benjamin Constant ou Tocqueville, il n'y a jamais de dissociation entre l'économique et le politique. Autrement dit, il y a un double visage, mais avec interaction entre les deux, entre liberté politique et liberté économique. On n'est pas libre politiquement.
Est-ce que ce double visage, Alain Laurent, est réversible ? Je veux bien vous accorder qu'il n'existe pas, en tout cas pas encore, pas aujourd'hui, il n'a jamais existé jusqu'ici, de démocratie qui ne pratique pas l'économie de marché, à moins qu'on inclue les démocraties populaires. Mais on ne peut pas ici parler de démocratie, véritablement. Donc, il n'existe pas de démocratie avec des droits élémentaires, notamment le droit de vote, par exemple, qui n'inclut pas l'économie de marché. Mais en revanche, il existe des systèmes qui pratiquent l'économie de marché et qui, par exemple, comme la Chine, sont résolument hostiles à la démocratie.
On est parfaitement d'accord.
Donc l'équation n'est pas réversible. On peut pas être démocrate sans être libéral, si vous voulez. Mais en tout cas, on peut être libéral, je mets entre guillemets, sans être démocrate.
Oui, mais alors là, il faut bien savoir ce qui se passe en Chine, où tout ce que font les entrepreneurs chinois est strictement permis et autorisé par l'État chinois. C'est un capitalisme d'État. Ça le sert pour un petit peu desserrer l'étau de la tyrannie politique sur les citoyens chinois. Mais si jamais, d'ailleurs, on le voit, quand il y a des contrats qui sont... Est-ce que vous croyez qu'une entreprise chinoise peut conclure un seul contrat à l'étranger, dans le cas d'un pseudo-libre-échange en l'occurrence, sans l'aval du gouvernement? Non, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe en Chine se fait sous le strict contrôle de l'État. Donc pour moi, et en fonction des faits, il n'y a pas le moindre libre marché en Chine, comme il n'y a pas actuellement de libre marché dans la Russie de Poutine, où tout est sous la coupe de l'État. Donc, Revel parlait d'un capitalisme d'État. Bon, c'est peut-être un peu joué sur les mots, mais en effet, le plus gros accumulateur de capital, en l'occurrence, c'est bien la Russie, où il y a le processus inverse. D'ailleurs, plus la démocratie recule actuellement en Russie, et plus l'espèce de pseudo-marché qui était apparu pendant quelques années rétrécit.